Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. En route, NCS. Au programme, actualité patrimoniale. Et Haïti, migration et surexploitation. Bonne écoute.
Actualité patrimoniale, été 2023. Un texte d'Alexandra Gilbert paru à l'été 2023 dans le magazine Continuité. Continuité et la fabrique culturelle. L'article Art autochtone en action, paru dans le numéro 174 de Continuité, a été sélectionné pour diffusion grand public par la Société de développement des périodiques culturels québécois et la Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec. Ce texte du Wendat Guy Sioui-Durand, sociologue de l'art et commissaire indépendant, aborde l'importance de l'expression artistique des Premières Nations pour guérir collectivement les blessures du passé. Il est possible de lire le texte gratuitement au bit.ly/ 44B1 KM en lettres majuscules H ou de commander le numéro en question au magazine continuité.com. Les goélettes de Charlevoix protégées. En 2023, le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une contribution supplémentaire de 1,4 million de dollars au musée maritime de Charlevoix pour le projet de protection pérenne de trois goélettes. Ce financement, qui s'ajoute à une somme initiale de plus de 4,7 millions de dollars, permet la construction d'abris pour la préservation des goélettes Jean-Yvan, Saint-André et Marie-Clarisse II d'ici à ce qu'elles puissent être restaurées. La première est le plus important témoin du savoir-faire naval au Québec, tandis que les deux autres sont classés biens patrimoniaux. Ces imposantes embarcations de 40 mètres de longueur par une dizaine de mètres de largeur sont au cœur de la collection du musée maritime situé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Colorier l'histoire. Colorier les portraits de femmes et d'hommes ayant marqué l'histoire d'ici dans différents domaines, arts et lettres, affaires, médecine, journalisme, botanique. Voilà ce que proposent les rendez-vous d'histoire de Québec qui se tiennent du 9 au 13 août 2023. Cette quarantaine de portraits, œuvre de l'illustratrice Constance Harvey, est accompagnée de courtes biographies. Une façon originale de renouer avec le passé du Québec ou de faire de belles découvertes. Visite du dimanche. Avec le retour de la belle saison, l'organisme ami et propriétaire de maisons anciennes du Québec reprend ses visites du dimanche de mai à octobre 2023. Les curieux pourront pénétrer dans des maisons d'antan pour y découvrir les aspects uniques du patrimoine de ces dernières, l'histoire de leur restauration et leur ancrage dans les municipalités du Québec. Par exemple, certains propriétaires ouvrent les portes de leur demeure ancestrale le 9 juillet à Buckingham, en Outaouais, et le 6 août à Saint-Irénée, dans Charlevoix. Le lac aux étoiles qui craque. Chaque année, à l'approche de la Saint-Valentin, la commission de toponymie annonce les coups de cœur du public parmi les lieux nouvellement nommés. Plus de 7000 personnes se sont prononcées en faveur du lac aux étoiles qui craque, situé à 20 km au nord-est de Baie-Comeau. Son nom poétique fait référence à la glace qui craque en hiver. Quant à la commission, elle a retenu le lac des Frémilles, un plan d'eau situé à 130 km au nord de Dolbeau-Mistassini, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avaler les montagnes. Le quartier chinois de Montréal dévoile son côté féminin. Jusqu'au 23 août, le musée McCord Stewart présente l'exposition « Avaler les montagnes » de l'artiste multidisciplinaire Karen Tam. Le titre renvoie aux « Montagnes dorées », nom donné au Canada par les premiers immigrants chinois au milieu du 19e siècle, en référence à la possibilité d'y faire fortune. À partir d'objets appartenant à des membres de la communauté, l'artiste a créé des œuvres qui mettent en vedette des femmes chinoises ayant vécu dans la métropole au 19e et 20e siècle. Leur apport à la vitalité du quartier fut des plus importants, malgré leur sous-représentation due à la loi de l'immigration chinoise, adoptée il y a 100 ans. Cette loi, qui pendant 24 ans a interdit toute forme d'immigration en provenance de la Chine au Canada, a créé un fort déséquilibre dans la population en empêchant les femmes de venir rejoindre leur mari. Un jeu pour l'UQAM. UQAMino, c'est le nom du jeu créé par une équipe de professeurs et d'étudiants à la maîtrise en communication de l'UQAM. Utilisant la géolocalisation, l'application permet de découvrir le patrimoine de cette université montréalaise dont les activités sont réparties entre différents pavillons autour de l'axe Berry-UQAM jusqu'au complexe des sciences Pierre-Dansereau. Les joueurs doivent résoudre des énigmes, relever des défis et amasser des objets dans 10 lieux différents. Une façon ludique de visiter ou de redécouvrir l'UQAM. Archives Beauceronnes accessibles. La Société du patrimoine des Beaucerons a mis en ligne un portail afin de rendre ses archives disponibles. On y trouve la description de documents d'archives et d'objets conservés par les institutions muséales et d'histoire de la Beauce. La Société souhaite ainsi mettre en valeur le patrimoine documentaire de la région et, plus largement, son patrimoine sous toutes ses formes, lettres, photos, cartes. On y trouve de nombreuses traces de tout ce qui a contribué à faire de cette région ce qu'elle est aujourd'hui. Pour étudier le patrimoine bâti. Les professionnels et les passionnés du patrimoine bâti ont désormais accès à un programme court axé sur les connaissances pratiques offertes par la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. La reconnaissance de l'aspect patrimonial du bâti et sa mise en valeur sont au cœur de cette formation composée de 5 cours. L'ensemble permet d'acquérir une expertise reconnue et d'agir à titre de spécialiste au sein d'équipes multidisciplinaires sur des projets de transformation de l'environnement bâti, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique. Montréal, version Lego. La Montréalaise Adi Parsons s'est lancée tout un défi, celui de reproduire différents bâtiments de la métropole à partir de blocs Lego. Passionnée d'architecture, l'étudiante en électromécanique utilise d'abord un logiciel de design pour créer les maquettes de ses projets. Puis, elle se lance dans la construction. Maisons typiques du plateau Mont-Royal, dépanneurs Couche-Tard, restaurants chez Schwartz et même l'emblématique Orange Julep ont pris vie sous ses mains habiles. Cette dernière réalisation a demandé pas moins de 5 mois de travail, 8 versions et 1635 pièces Lego. On peut admirer son œuvre sur son site web au brickandblock.ca, brickandblock.ca. C'était Actualité patrimoniale, été 2023, un texte d'Alexandra Gilbert, paru à l'été 2023 dans le magazine Continuité.
Haïti, migration et surexploitation. Un texte d'Alain Saint-Victor et René Lexantus paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. L'un des phénomènes marquants de l'histoire haïtienne du début du 20e siècle est celui de la migration. Ce phénomène prend une telle ampleur que, durant les années 1920, il y a autour de 20 % de la population active masculine haïtienne qui est employée à l'étranger, dont environ les deux tiers à Cuba et le reste en République dominicaine. À l'origine, spoliation, surexploitation et immigration. Précisons que, durant la décennie de 1920, le pays est sous occupation états-unienne, 1915-1934, et que les déplacements de population qui s'opèrent de façon cyclique s'expliquent par le besoin criant de main-d'œuvre des usines centrales sucrières qui se trouvent surtout à Cuba, mais aussi en République dominicaine. Ces centrales sucrières sont le résultat de l'expansion du capital nord-américain qui tire d'énormes profits de la grande quantité de terres disponibles et de l'abondante main-d'œuvre haïtienne importée. En général, on comprend mal pourquoi les capitalistes états-uniens n'ont pas autant investi dans l'industrie sucrière en Haïti qu'ils l'ont fait à Cuba et en République dominicaine. Selon une hypothèse discutable, l'une des raisons serait la difficulté pour l'occupant de prendre possession de la terre. Des études démontrent cependant que des compagnies états-uniennes ont accaparé plus de 266 000 acres de terre. Cela explique en grande partie pourquoi près de 300 000 Haïtiens et Haïtiennes, pendant l'occupation, ont dû quitter le pays vers Cuba et la République dominicaine. Tout laisse croire que dans ce nouvel impérialisme mis en place par les États-Unis dans les Antilles, les travailleurs haïtiens sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché, quasi esclaves. Soulignons également que l'expropriation des terres de la paysannerie haïtienne s'est poursuivie bien après l'occupation militaire. Au cours des années 1940, en vue de ravitailler l'armée nord-américaine, la compagnie états-unienne Société haïtiano-américaine de développement agricole, SHADA, s'approprie plusieurs dizaines de milliers d'hectares pour produire du caoutchouc et de la pite, une matière textile extraite des feuilles de l'agave. Ayant perdu leurs terres, des milliers de paysans sont contraints de s'expatrier, principalement vers Cuba et la République dominicaine. Ce flux migratoire haïtien qui se poursuit de façon irrégulière constitue l'essentiel de la force de travail de l'industrie sucrière à Cuba jusqu'à la Révolution et en République dominicaine jusqu'aux années 1970. Haïti devient au cours de cette période un pays pourvoyeur de main-d'œuvre à faible coût. Cette migration de la force de travail ne touche pas uniquement les deux pays déjà mentionnés. En 1970, 30 000 Haïtiens vivent aux États-Unis. En 1973, 40 000 aux Bahamas. De 1974 à 1985, la croissance de l'immigration haïtienne en Guyane est si élevée que le nombre d'immigrés représente 20 % de la population totale du pays en 1985. De façon générale, cette migration est constituée d'ouvriers, particulièrement aux États-Unis, d'artisans, de petits commerçants et d'agriculteurs, particulièrement aux Bahamas et en Guyane. Dictature, politique néolibérale et exode rural. À la fin des années 1960 et surtout durant la décennie 1970, les politiques néolibérales mises en place par l'État haïtien sous la pression du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, BM, contribue à dégrader l'agriculture et à éliminer de nombreuses industries locales. L'exode rural s'intensifie. La population de la capitale, Port-au-Prince, augmente de façon exponentielle, de 50 000 habitants au cours de la décennie 1950 à 300 000 au milieu des années 1970. Cette surpopulation allait constituer l'armée de réserve en main-d'œuvre pour les compagnies de sous-traitance installées dans la capitale. Le nombre de celles-ci croît rapidement au cours des années 1970, passant de 55 en 1971 pour atteindre 200 en 1984. L'implantation des mesures néolibérales eut pour résultat non seulement la dégradation de l'agriculture, ce qui induisit un exode rural et la faillite des industries de l'État, mais aussi une augmentation importante du chômage, la sous-traitance ne pouvant absorber qu'une infime partie de la population en âge de travailler, 6% en 1973. Cette situation sociale difficile est aggravée par la répression de la dictature des Duvaliers. Depuis le début des années 1960, le régime spolie systématiquement les caisses de l'État et exproprie violemment les paysans. Toutes les formes d'organisation sociale, syndicales, paysannes, étudiantes, politiques, journalistiques, etc., sont réprimées dans le sang. Des milliers de personnes sont assassinées ou disparaissent. Beaucoup d'autres prennent le chemin de l'exil. Puisqu'aucune revendication ni critique n'est permise, la dictature ouvre la voie à l'exploitation impitoyable des ouvriers et des ouvrières, particulièrement dans l'industrie du textile et, de façon générale, à l'implantation des politiques néolibérales, comme ce fut le cas au Chili sous la dictature de Pinochet. L'exode rural devient donc le seul choix de survie de la classe paysanne qui, historiquement, nourrissait le pays. On assiste à un changement structurel imposé par les groupes sociaux dominants et le marché mondial pour satisfaire la demande étrangère, changement qui crée les conditions non seulement d'une dégradation de l'économie paysanne traditionnelle, mais aussi d'une désertification constante du sol. Ce sont ces conditions également qui vont pousser nombre d'habitants des classes populaires et de la petite bourgeoisie à quitter le pays au début des années 1970. Vous écoutez Haïti, migration et surexploitation, un texte d'Alain Saint-Victor et René Lexantus, paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Immigration haïtienne prolétarisée au Québec. À partir de 1968, le nombre d'immigrantes et d'immigrants haïtiens s'établissant au Québec s'accroît substantiellement. En 1974, cette immigration haïtienne occupe la première place parmi les immigrants reçus dans la province. C'est une immigration caractérisée par le gouvernement canadien comme une main-d'œuvre majoritairement non qualifiée, c'est-à-dire destinée à pourvoir des postes que les personnes du pays ne veulent pas. Cette immigration diffère de celle de la décennie 1960, qui était constituée principalement de professionnels travaillant dans le secteur tertiaire de l'économie. À l'époque, la politique d'immigration canadienne s'oriente sur les besoins de l'industrie, en particulier de l'industrie du textile, localisée à 80% au Québec, principalement à Montréal, et où les salaires sont parmi les moins élevés au Canada. Les Haïtiennes sont surreprésentées dans le secteur où elles constituent plus de 50% de la main-d'œuvre. Ces immigrantes, de même que d'autres femmes venues de pays comme la Grèce, le Portugal, la Colombie, travaillent dans des conditions très difficiles, et le nombre d'heures de travail annuel est de 5,6% plus élevé que la moyenne. De façon générale, ces travailleurs et travailleuses qui intègrent le marché du travail au Québec au début des années 1970 se trouvent dans une situation de précarité qui rend possible leur surexploitation, statut juridico-politique vulnérable, incompréhension de la langue, isolement, racisme. Les dessous de la poussée migratoire haïtienne en Amérique latine. Depuis les années 2000, on observe une tendance à la hausse du nombre de migrantes et migrants haïtiens vers l'Amérique latine. Cette tendance devient une grande traversée au cours de la décennie 2010, après le tremblement de terre qui a ravagé l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les données de l'ONU de 2019, environ 1,5 million d'Haïtiens ont émigré ces 10 dernières années, soit 14,26% de la population haïtienne active. Leur nouvelle destination inclut le Brésil et le Chili, alors que le Mexique, le Panama, l'Équateur et le Pérou servent souvent de lieu de transit. Cette augmentation dans la région coïncide avec la transformation des politiques d'immigration. Le Brésil, notamment, allège sa politique de régulation de l'immigration de manière à attirer cette main-d'œuvre corvéable à merci dans le contexte des préparatifs de plusieurs compétitions sportives internationales, dont la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Le capital transnational et la bourgeoisie brésilienne en profitent pour effectuer la construction d'infrastructures. L'économie brésilienne s'intéresse à ces migrants en quête d'espoir, mais sans saisir les raisons pour lesquelles le territoire haïtien est devenu si peu désirable pour ses citoyens et citoyennes. Dans un contexte où l'armée de plusieurs pays de la région, dont le Brésil, participe à l'occupation militaire d'Haïti sous le label de l'ONU, il s'avère pertinent de s'interroger sur la cause de cette grande traversée des Haïtiens vers les pays de l'Amérique latine. L'impensé de la grande traversée. Les trois dernières décennies constituent une période charnière dans la mise en œuvre des politiques néolibérales en Haïti. Depuis le retour à l'ordre démocratique en 1994, le pays est entré dans une seconde vague de néolibéralisation. Sous la menace des soldats américains, les gouvernements successifs sont contraints de privatiser les principales entreprises d'État, de réduire au minimum les investissements sociaux et de dégraisser l'appareil d'État. Si ces troupes sont parties en 1999, après avoir été progressivement remplacées par des missions militaires et civiles de l'ONU, l'année 2004 donne lieu à une autre occupation militaire par les États-Unis. La composante militaire a par la suite fait place au casque bleu de l'ONU sous le commandement de l'armée de terre du Brésil. Depuis lors, Haïti est sous la tutelle de l'ONU. La saignée néolibérale des masses urbaines et rurales se poursuit sous la pression des chars et des mitraillettes des militaires des Nations unies. Dans le jargon des ambassades occidentales et du Conseil de sécurité de l'ONU, l'objectif de l'occupation onusienne vise la stabilisation des institutions haïtiennes. Celle-ci se définit par la restauration d'un climat sûr et stable, le renforcement des institutions gouvernementales et des structures d'un État de droit, la promotion et la protection des droits humains. Dans les faits, la présence militaire sert d'appui à un processus de néolibéralisation à grande échelle qui a pour résultat un accroissement de la pauvreté dans les principaux centres urbains et ruraux, ainsi que l'explosion d'un chômage de masse. Entre-temps, les entreprises publiques et des pans entiers du territoire sont livrés à vil prix aux multinationales. L'enjeu consiste à tenir en respect les mouvements sociaux haïtiens tout au long de ce processus dit de stabilisation du pays. Le bilan de la répression est lourd, dont des milliers de morts dans les quartiers populaires de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et des villes secondaires du pays. Des centaines de femmes et d'enfants subissent des viols commis par des casques bleus. De surcroît, le choléra introduit par les troupes onusiennes tue plus de 10 000 personnes sur 800 000 infectées, sans le moindre dédommagement pour les victimes. Les troupes militaires d'occupation quittent Haïti en 2017, mais l'ONU maintient le pays sous tutelle à travers la mission civile des Nations unies. Les deux décennies de tutelle génèrent une situation de chaos social et institutionnel, où des gangs armés sèment la terreur avec l'appui des agences gouvernementales et internationales. Ce chaos rend la majorité de la population haïtienne désireuse de quitter le territoire. En guise de conclusion, il ressort de tout cela que la migration haïtienne est essentiellement une migration de main-d'œuvre bon marché. Tout au long du XXe siècle, les différentes formes qu'elle a prises relèvent soit d'une situation de coercition, d'expropriation et de dépossession de la terre, comme cela a été le cas au cours de l'occupation états-unienne ou encore au cours des années 1940, soit de l'implantation des politiques néolibérales à partir des années 1970. Cette migration touche particulièrement la paysannerie, même si la petite bourgeoisie est également concernée, constituée en bonne partie d'exilés politiques victimes de la dictature des Duvaliers dans la décennie 1960. Un demi-siècle plus tard, le capitalisme mondialisé et la financiarisation de l'économie ont provoqué la fermeture et la délocalisation de nombreuses industries à forte intensité de main-d'œuvre. Les immigrantes et immigrants, en tant que force de travail déqualifiée, deviennent de moins en moins importants pour l'économie des pays du centre. Cependant, les déplacements de population restent encore, et surtout aujourd'hui, un enjeu majeur. Réfugiés venant des pays du Sud, théâtre des guerres impérialistes, réfugiés de la crise écologique, de la destruction des économies paysannes, de la paupérisation constante des classes moyennes. Cette nouvelle réalité de la migration explique en partie la montée de l'extrême droite occidentale et redéfinit du même coup les luttes sociales au niveau mondial pour sortir de la domination du capital. C'était « Haïti, migration et surexploitation », un texte d'Alain Saint-Victor et René Alexantus, paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizévoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.